Question spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amas...
De sortir du nucléaire, Dromardesh. Aujourd'hui, nous recevons l'équipe de la chaîne humaine, mais avant cela, nos deux billettistes, Alain et Georges, profitent de la rentrée pour vous faire part de leurs réflexions et de leurs réactions. N'est-ce pas, Alain ?
Bien sûr. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur Atomic Mac aujourd'hui pour commenter l'actualité de cette rentrée. En premier lieu, le pavé dans la mare d'Arnaud Montebourg avec sa déclaration provocation « Je considère que le nucléaire est une filière d'avenir ». Rappelons tout d'abord que le chef de l'État nous a promis un grand débat national sur la transition énergétique à l'automne et que les modalités concrètes de ce débat doivent être fixées lors de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre prochains entre toutes les parties prenantes. Alors que François Hollande a timidement envisagé une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité, en passant de 75% à 50% à l'horizon 2025, et accepté de fermer la vieille centrale de Fessenheim avant 2017, le ministre du redressement productif relance la bataille de l'atome. La déclaration d'Arnaud Montebourg reflète bien la position du secteur industriel qui parle d'énergie compétitive, d'énergie bon marché, alors que l'on sait que le coût du kilowatt est largement sous-estimé puisqu'il ne prend pas en compte ni le coût du démantèlement des centrales, ni de la gestion des déchets nucléaires, et qu'il va de toute façon augmenter fortement dans les années à venir pour financer les travaux de l'EPR et la mise aux normes de sécurité des vieilles centrales prolongées. Le ministre se fait ainsi le porte-parole du courant productiviste et nucléariste qui reste important au PS. La profession de foi de M. Montebourg est en décalage total avec la réalité. Par le monde, au contraire, le nucléaire est en déclin. Abandon en Allemagne, en Belgique et en Italie. Abandon de fait au Japon. Remise en question des programmes de construction aux États-Unis, en Inde et en Chine. Presque partout, les États considèrent que les risques et les coûts liés à cette énergie dépassent largement ses avantages supposés. En France, selon la Cour des comptes, un accident type Tchernobyl ou Fukushima coûte entre 600 et 1000 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu, entre 600 et 1000 milliards d'euros. Voulons-nous un avenir comme celui des habitants de Tchernobyl ou de Fukushima ? Pour conclure, le nucléaire est une énergie du passé et dépassée. La seule filière d'avenir dans le nucléaire, c'est le démantèlement des centrales qui donneront encore du travail pour longtemps à ses salariés. Je passe maintenant la parole à Georges.
Voilà, je prends la suite. Je vais vous parler du réacteur numéro 4 de la centrale de Fukushima. Tout d'abord, un rappel des faits. Je vous rappelle brièvement que sur les 6 réacteurs de la centrale de Fuku, 3 ont fondu partiellement pendant et après la catastrophe. Alors il s'agit des réacteurs 1, 2 et 3. Le réacteur numéro 4, en partie détruit suite à une explosion, abrite au deuxième étage une piscine de combustible usagé. 1500 bars, soit l'équivalent de 3 cœurs de réacteur, soit 264 tonnes, soit 50% de plus qu'à Tchernobyl. La grue intégrée au bâtiment qui permettait de charger et décharger ces bars a été détruite. Il n'est pas possible de laisser ces bars dans la piscine car suite à un séisme important, c'est-à-dire supérieur à un niveau 6, cela créerait une brèche dans la piscine laissant fuir l'eau. À ce moment-là, le combustible ne serait pas refroidi à l'air libre, seulement de 150 à 300 degrés. Au-delà de 700 degrés, il y a des risques de contamination par dégradation de ces barres non refroidies. La contamination s'étendrait bien au-delà du périmètre de la centrale, voire sur tout le Japon. Les questions vitales découlant de ces destructions se posent maintenant. Elles sont regroupées dans le texte suivant de la pétition internationale. Objectif 20 000 signatures, il y en a 12 200 acquises. Adressé au secrétaire général de Ban Ki-moon par des scientifiques internationaux sur le blog Fukushima. Je vous en donne l'essentiel. C'est que la piscine de désactivation de cette unité numéro 4, perchée à 30 mètres de hauteur, menace soit de s'effondrer avec le bâtiment, soit de se vider de son eau à cause de fissures. Je vais vous donner maintenant le communiqué de presse de TEPCO du 26 avril 2012. Au sujet de l'état de la piscine du réacteur numéro 4. Dans ce communiqué de presse, TEPCO dit, le bâtiment du réacteur numéro 4 n'est pas incliné et la piscine de stockage ne sera pas détruite par un tremblement de terre. Des mesures ont été prises pour confirmer que l'étage où se situe la piscine de stockage est parallèle à la surface de l'eau. Les responsables de TEPCO ont également expliqué que les supports en acier à la base de la piscine et le mur de béton ont été renforcés en juillet, ce qui a augmenté de 20% la marge de manœuvre contre un tremblement de terre possible. Alors la réponse des scientifiques, dans ce cas, les 600 galles, c'est une unité, de la construction initiale renforcée de 20%, cela donnerait 720 galles, ce qui est loin des 1000 galles qui peuvent se renouveler. Et TEPCO de continuer, en outre, une simulation a montré que même si un tremblement de terre de magnitude inférieure à 6 se produisait à nouveau, cela ne ferait pas s'effondrer la piscine. La question, et si la magnitude était localement supérieure ? TEPCO a également précisé que les travaux pour enlever les barres de combustible pourraient commencer dès 2013. Ensuite, en cas de fort séisme, que pourrait-il advenir ? Alors, toujours tiré du même texte, d'après ce que dit TEPCO, un séisme de magnitude supérieure à 6 avec des accélérations au sol de plus de 720 galles pourrait être fatal au bâtiment. Dans ce cas, soit la piscine perd son eau à cause d'une brèche occasionnant une fuite d'eau massive. Si TEPCO a prévu un système de refroidissement de secours à gros débit, alors les dégâts pourront être limités. Mais combien de temps et jusqu'à quelle solution de rechange ? Soit le bâtiment réacteur s'effondre, et là, adieu à la centrale tout entière, sans parler des conséquences. L'échauffement par manque d'eau provoquerait d'abord un incendie du combustible, envoyant directement dans les airs les produits de fission. Dans les deux cas, si le contrôle du refroidissement de la piscine du réacteur 4 est perdu, c'est un risque de catastrophe en Syrie qui mettrait non seulement l'existence du Japon en cause, mais aurait un retentissement autrement plus important que Tchernobyl, selon la direction des vents et le régime des précipitations. Une vidéo du docteur Koide du 8/3/2012 sur YouTube fait le tour du sujet. Le 14 juin 2012, pour terminer, l'ingénieur nucléaire japonais Kenichi Omae déclare « Aujourd'hui, les ingénieurs du monde entier devraient relever le défi de retirer le combustible des piscines des bâtiments des réacteurs numéros 4, 3 et 1, ce qui corrobore les infos de TEPCO du 27 juin 2012 relatant des niveaux records de radiation dans le sous-sol du numéro 1. Il y a de l'eau radioactive avec 10 300 millisieverts par heure, ce qui signifie une mort humaine très rapide, d'où l'usage des robots par TEPCO. Je n'ai pas d'infos indiquant que TEPCO dégagerait ses barres avant 2013. Donc à voir sur le blog Fukushima, la vidéo d'Arnie Gundenzern expliquant que les piscines peuvent prendre feu. Rien n'est terminé à Fukushima, Atomic Mac vous informera régulièrement.
Mon président, je sais que tu le sais, mais je te le redis, comme ça c'est fait. On peut se parler. Il faut à peu près 50 ans pour bien refroidir complètement. Un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale, genre comme les tiennes. Enfin, les nôtres, quoi. Si on stoppait le nucléaire. Si je te dis ça, ce n'est pas pour faire mon aigri ou des discours. Scientifique, n'y pointe jamais, car même toi tu t'endormirais. Je te propose un truc facile, et après je te laisse tranquille. Je sais que c'est dur, mais tu peux le faire. Veux-tu stopper le nucléaire ? Ce que tu devrais faire aussi au Congrès des Nations Unies. C'est dire modestement, les gars, y'a plus aucune centrale chez moi. Et hop, tout balayé. Au début, je croyais vraiment contenter quelques mécontents. À force d'écouter tout le monde aussi. Mais j'ai trouvé ça fantastique. And I say no bombes atomiques. babacouilles en Birkenstock, jeunes allemandes non épilées, contre catholiques, pratiquants vendéens et jeunes curés, marchands d'uranium, socialistes, humanistes convaincus, ex-femmes de ZZ Top, anciens barbus. Ils hurlent tous, et l'armement, que va-t-on faire de nos savants? Ah bah oui, ça c'est un problème. Tu leur réponds, vous êtes tarés, et vos centrales vont exploser, cancer de la thyroïde. Et puis tu fais semblant de sortir, et tu les laisses réagir. Regarde, 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 regarde. Tu seras étonné de les voir, te courir après dans le couloir. Par deux, trois teignes dangereux et cinq ou six mecs ennuyeux. Beaucoup qui pensent déjà comme toi se réveilleront et te diront: l'électricité va manquer, là c'est à toi de répliquer. Alors là tu sors ton joker, tu vas dire vraiment tout ce que t'as. Les éoliennes justement, ça fait du courant gratuitement. Pas de soucis, pas de calcaire, abandonnons le nucléaire, fermons les centrales pour de bon, pour nos enfants, c'était pas bon, et perdons une fois pour toutes la course à l'armement, et toute la terre nous criera victoire, on entrera dans l'histoire, à nous la gloire. Peace and love, mon président.
Eh bien, nous venons d'entendre Sanseverino, qui a, pour une chanson assez exceptionnelle, puisque c'est une chanson qui a été faite et réalisée pour la chaîne humaine qui s'est déroulée le 11 mars 2012, en pleine campagne présidentielle. Ce jour-là, 60 000 personnes venues de toute la France et même de pays voisins, Italie, Allemagne, Suisse, se sont étirées en une longue chaîne humaine entre Lyon et Avignon pour exiger la sortie du nucléaire dans le pays le plus nucléarisé du monde. Cette manifestation originale était une première en France, tant dans sa forme que dans son organisation. En effet, ce ne sont pas des états-majors politiques ou associatifs qui sont à l'origine de l'initiative, mais un groupe, un petit groupe, d'Ardéchois et de Drômois. Certains et certaines d'entre eux ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. Christina, qui est présente aujourd'hui. Bonjour Christine.
Bonjour.
Georges Griot. Bonjour Georges. Daniel Fraisse. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Et puis Marie-Lise Vincent. Bonjour Marie-Lise. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui. Dites-nous comment est née cette idée de chaîne humaine et aussi comment êtes-vous passée de l'idée à la réalisation. Christine ?
Voilà, alors, bouleversée par la catastrophe de Fukushima, on a commencé à discuter entre nous, on est des voisins, des amis, qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, je suis allemand ardéchois, et en Allemagne, les chaînes humaines ont une tradition, voilà. Et comme ça, j'ai essayé de discuter avec tout le monde, faire une grande chaîne humaine dans la vallée du Rhône, parce que la vallée du Rhône, c'est la zone plus nucléarisée du monde aussi. Et voilà, et les autres ont été aussi ravis de cette idée, de faire quelque chose de très familial, très enthousiaste, très positif pour montrer, nous voulons la transition d'énergie, nous ne voulons pas une catastrophe comme à Tchernobyl, à Harrisburg ou à Fukushima. Et nous voulons sauver et protéger la planète pour les générations futures, pour nos amis, pour nos enfants.
Mais alors, quand vous avez lancé cette idée comme ça, les gens autour de vous, comment ont-ils réagi, par exemple ?
Eh bien, quand elle nous a parlé de cette idée, c'est vrai qu'on a été un petit peu éberlués quand même, parce que faire une chaîne de Lyon à Avignon, ça nous a quand même paru assez ambitieux. Et puis, c'est vrai qu'elle était tellement motivée, tellement persuasive, en nous disant « mais ça marche en Allemagne, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France ». Si, vous allez voir, ça va marcher. Et ben vraiment, on s'est pris au jeu et on a marché.
Et toi, Georges, comment tu as réagi à cette proposition ?
Ben, positivement, je n'ai pas douté de sa faisabilité. Je voulais signaler sur mon vécu que nous avons eu de nombreuses réunions à Giac et Bruzac. Je remercie au passage le gérant du camping. et c'est près du domicile de Christine. Et nous avons eu de nombreuses réunions, dont certaines ont été assez longues, pour organiser la grande chaîne humaine.
Et Daniel ?
Bien, dans un premier temps, un petit peu perplexe, mais enthousiaste aussi. Et voilà, ça a été une grande expérience.
Bon, alors, de ce petit groupe d'Ardèche comme ça, qui discute, qui envisage un grand projet quand même, un projet assez immense, hein, et en plus tout à fait original, vous êtes passé comment de ce petit groupe à progressivement la réalisation vous avez commencé quand? Quand est-ce qu'est née cette idée? Et ensuite, un peu le timing, ça donnait quoi, Christine?
Ça a commencé fin du mois de mars déjà, alors très proche de la catastrophe de Fukushima. J'ai commencé à téléphoner, appeler Greenpeace France, le réseau sortie nucléaire. Alors là, en général, la réponse était toujours « c'est fou, c'est impossible en France ». Voilà, alors nous, on a décidé, on va continuer. Alors j'ai appelé chaque semaine presque le réseau sortie nucléaire. On dit « bon, on va essayer de vous informer quand même, aussi quand vous pensez que ce n'est pas du tout réalisable. » Et j'ai contacté aussi très tôt le Cory Boris Vian, parce que je pensais que c'est bien avoir des contacts avec des artistes, parce que la chanson « Le Désateur » ou « Monsieur le Président », comme c'était avant les élections présidentielles, ça m'a tellement touchée et tirée. J'ai dit « bon, ça c'est la bonne chanson pour faire avec un autre texte, un texte pour la chaîne ». Et heureusement, Madame Berthold, elle est la présidente de la Cory Boris Vian. Boris Vian, elle était, après quelques doutes, elle était tout de suite aussi enthousiaste et d'accord. Et c'est elle qui a s'engagé avec nous. Voilà.
D'accord. Et puis, bon, le réseau sorti de nucléaire, si je comprends bien, vous répond pas tout de suite, hésitant. Il voit un projet peut-être sympathique, mais irréalisable. Et dans ces mois, juste après Fukushima, si j'ai bien compris, dans ces mois, vous avez travaillé comment pour essayer de convaincre tous ces gens et faire monter?
Alors, à ce moment-là, on a mis en place les chaînes tous les mois. Donc, on a fait un planning en essayant de placer des grands rendez-vous pour faire des chaînes dans des villes où il allait se passer quelque chose d'un peu particulier. Alors, on a commencé par Montélimar le 22 mai, parce qu'il devait y avoir un petit rassemblement, je ne me souviens plus.
120 personnes.
Et puis après, il y a eu Bourg-Saint-Andéol. Et après, au mois de juillet, on a profité du festival d'Avignon. Et là, on a vraiment senti que ça y est, on commençait un petit peu à s'étoffer, à faire des chaînes qui commençaient à avoir un petit peu de l'allure, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a commencé les chaînes à Montélimar, on était 150. Donc c'était petit. À Bourg-Saint-Andéol, on était 60. C'est très chaud, faut dire, c'est 40. Mais en Avignon, voilà, on a senti que ça y est, là... La boule commençait à prendre.
Georges ?
Oui, je veux ajouter que, d'une part, l'attitude du réseau a été difficile à supporter, parce qu'il a fallu attendre sa décision. Et d'autre part, initier des chaînes comme ça, c'est quelque chose qui était inconnu en France.
Complètement. Voilà. D'accord. Alors, donc, si je comprends bien, donc voilà, des petites chaînes locales qui se mettent en place, ce qui veut dire que vous avez été obligé de prendre quand même des contacts, parce que de l'Ardèche en passant à Montélimar, à Die, etc., il a fallu prendre des contacts avec les groupes locaux. S'est fait comment, ça? Il a fallu les convaincre aussi, j'imagine?
Oui, mais c'était relativement facile, parce qu'il était ravi d'une autre idée, et c'était toujours quelqu'un qui a déjà... venu à une chaîne. Et comme ça, ils ont, c'est comme une petite feu qui prend. Et après, une personne après l'autre a discuté. C'est super les chaînes, c'est d'autres choses. Voilà, alors c'était pas très difficile convaincre les groupes locaux. Mais on a fait deux chemins. Une, c'était les chaînes chaque mois. Mais dans le même moment, on a commencé à préparer la grande chaîne. Et ça, c'est très important parce qu'une grande chaîne entre Avignon et Lyon ne se prépare pas dans 3 mois. Alors, on a eu une traduction d'une guide pour des chaînes humaines qui était en allemand. C'était traduit en français. On a commencé à faire tous les trajets pour regarder tous les parkings, réfléchir comment on peut établir les gens sur la N7. Au premier, on a eu l'idée de prendre la 86 et la N7. Après, on a décidé que c'est trop dangereux, la 86, alors on va rester sur la N7. Et c'était vraiment un grand travail et c'est une grande logistique. Faire une chaîne comme ça et comme ça, notre petit groupe, c'était magnifique, l'énergie de 10 personnes. Oui, voilà.
Oui, et pour l'instant, donc, c'est toujours votre groupe qui organise ça, vous n'êtes pas encore appuyé par les associations anti-nucléaires ou autres au départ,
alors,
à ce moment-là, quoi.
Sortie nucléaire, c'est rentré dans le bateau au mois de novembre, au mois d'octobre, fin de mois d'octobre. Greenpeace, 3 semaines avant la grande chaîne. Alors, vous pouvez imaginer que... on a bien travaillé.
Oui, j'imagine très bien. Alors, parlez-moi un petit peu de ces chaînes locales, parce que certaines ont quand même été assez impressionnantes. On a vu sur la ville de Valence plus de 700 personnes, ce qui était le plus gros rassemblement antinucléaire à Valence. À Lyon aussi, beaucoup de monde. Comment vous ressortiez après ces chaînes locales ?
Bien, à Valence en particulier, il faisait même très froid, avec beaucoup de vent. Oui, plus de 700 personnes. Et ça a été très, je sais pas quel mot trouver. Les gens étaient très enthousiastes, c'était gai, c'était
voilà. Chaud quoi.
Voilà. À 10, c'était très bien aussi. Il y a eu des musiciens qui spontanément se sont mis le long de la chaîne, ont accompagné. C'était aussi très dynamique. Et Lyon, il faisait encore très froid aussi. Et il y avait eu quand même beaucoup de monde. Et ce qui était intéressant, c'était au moment des fêtes de Noël. Et il y avait beaucoup de monde dans les rues. On a été très visibles. Voilà, oui, mais c'était très, très enthousiasmant, quoi.
D'accord. Oui, ce qu'on voit, en fait, c'est que vous expérimentez donc localement ce que serait la grande chaîne et en même temps, pendant cette expérimentation, apparaissent des choses nouvelles, quoi.
Oui, c'était la pub pour la grande chaîne. C'était en disant, voilà, c'est votre petite chaîne maintenant, mais il faut venir à la grande chaîne le 11 mars. Alors ça, c'était toujours la... l'info, c'était toujours l'esprit qui a passé. Et c'était aussi super bien parce qu'il y a beaucoup de familles avec des enfants qui sont venus à la chaîne. Alors, ça a changé aussi un petit peu les manifestations normales, en guillemets. Parce qu'une chaîne, vous êtes vraiment main à la main et vous pouvez vous montrer. C'est plus impressionnant, c'est une visuelle qui est vraiment impressionnante. Et ça montrait aussi qu'il y a pas mal des jeunes parents qui réfléchissent pour l'avenir, qui disent, OK, aussi des gens, par exemple, qui travaillent dans les centrales. On a eu des gens qui travaillent dans les centrales et on a essayé de passer le message que nous voulons la transition énergétique, mais quand même, tous les emplois qui sont pour le moment dans le nucléaire, ils vont rester pour minimum 40 ans parce qu'on a besoin, les ingénieurs, les techniciens aussi, quand on arrête le nucléaire. Quand on arrête le nucléaire, voilà.
Georges ?
Oui, je veux ajouter sur les souvenirs personnels des rencontres avec des travailleurs du nucléaire en retraite. Qui nous ont confié, parce que pas seulement à moi, des infos sur leur vécu lorsqu'ils étaient en activité et qui étaient relatifs à des galères sur le lieu de travail et des pressions diverses, quoi.
Oui, donc ces chaînes ont été en plus l'occasion donc, d'échanges avec des gens nouveaux qui ne viennent pas dans les rassemblements antinucléaires, si je comprends bien.
C'est ça. Voilà. Et par exemple, une petite image, le chaîne à Tournon, on a passé le pont entre-temps, l'Hermitage et Tournon, et un bateau avec des voyageurs, elle était sous le pont, et tout à coup, quand ils ont vu la chaîne, et pourquoi on fait la chaîne, ils ont s'arrêté, ils ont tourné, et ils ont crié « Tricastin, assassin », et c'était... Ça nous a beaucoup touchés. Et après, on a fait le boucle à Tain et on a retourné. Et le bateau est retourné sur le Rhône pour faire ça encore une fois pour nous. Et c'était voilà, le signe que les gens, ils attendent aussi un petit peu que, oui, qu'on bouge.
Oui, toujours dans le même sens, j'ai souvenir d'une distribution de tracts à Luna, à Ruons, l'an dernier. Donc. Et puis aussi... en préparation de la chaîne à Lyon pendant les fêtes de l'hiver. Et nous étions quatre et nous avons eu un certain nombre de retours, de témoignages de soutien et des échanges avec les passants qui ont été brefs mais intenses, fructueux.
Non, Élise.
Oui, moi, à propos de la distribution de tracts, je voulais dire que ça a été vraiment un moment très, très fort pour moi. Parce que c'est vrai que je suis allée au-devant de milliers de gens, je peux dire, à distribuer vraiment main à la main, à expliquer. Et chaque fois, vraiment, c'était quelque chose qui m'a beaucoup portée tout le temps, parce que les gens réagissaient avec, tu l'as dit souvent, le mot enthousiasme, mais c'était vraiment ça. Quand on leur disait « on va faire une chaîne de Lyon à Avignon », ils ouvraient des grands yeux, ils disaient « mais on va faire ça, mais c'est formidable !» Et tout de suite, ils étaient partants. Bon, est-ce qu'ils sont venus? Je ne sais pas, mais ils sont bienvenus puisqu'on a été 60 000. Mais néanmoins, les gens étaient très réceptifs à cette nouvelle, quoi. Vraiment, ça les emballait. Comme nous, ça nous emballait au départ, mais ils étaient partants.
Ce qui est apparu un petit peu pour l'opinion publique, c'est... D'habitude, en France, on est habitué à des manifestations nationales organisées par des organisations nationales, des appareils, sortir du nucléaire, les partis politiques, etc. Là, effectivement, l'originalité, c'était qu'on a cette petite opération qui part de la base et qui devient un grand rassemblement national. Tout ça, ça coûte de l'argent quand même. Vous êtes organisé comment financièrement?
C'est nous qui avons investi, hein. Simplement.
Ce sont donc vos fonds propres qui, au départ, ont permis de faire tirer les tracts, faire les affiches,
oui,
etc.
Au départ, oui. Au départ, après, oui. Heureusement, le réseau est venu renforcer et a obtenu, a fait des appels à dons, mais c'est essentiellement le groupe qui,
et vous vous
qui
en
a fonctionné.
Et vous en êtes sorti financièrement ou vous êtes tous complètement endettés?
Ah non, non, parce qu'on va continuer avec les chaînes humaines, alors il faut oui, économiser un petit peu, bien regarder pour qu'il y ait l'argent pour continuer. Mais parce qu'en plus, on a décidé de faire quelque chose un peu plus professionnel pour que les gens aient vraiment confiance en nous et au projet. Alors, on a essayé de tirer des tracts assez, oui, assez professionnels et aussi des affiches qui ne sont pas trop faites à la main.
Bien, je vais vous proposer, puisque Christine nous a parlé au tout début de la chanson de Boris Vian et de l'accord qui a été donné pour transformer cette chanson, d'écouter tout de suite un des groupes qui a repris cette chanson de Boris Vian, c'est les Léo-Parleurs, et donc on leur redonne la voix, la parole et la chanson.
2, 3
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir des nouvelles du Japon. Un deuil est si profond que la fin on ne voit. Monsieur le Président, je ne peux plus me taire. L'énergie nucléaire peut tuer tous nos enfants. Pensez au lendemain, les risques sont durables. La terre incontrôlable, vous suivez un faux chemin.
Voilà une question, que faire des déchets en 300 000 années, n'est-ce pas un peu long? Depuis que je suis né, j'attends de vraies réponses, j'entends que des mensonges, tout est sécurité. Il y a tellement d'emplois dans l'énergie renouvelable et du travail durable que le syndicat commence demain matin à fermer les centrales dans ce moment crucial. Réveillez-vous. Enfin,
l'énergie nucléaire envahit toute la France. Fessenheim en Provence, mais faut nous en défaire. Y'a pas de sécurité nulle part dans le monde. En France ni au Japon, ça c'est la vérité. Je ne peux plus me taire. Maintenant il faut comprendre que la nature peut surprendre. Un accident sévère suffit à polluer nos plaines et nos montagnes, Tricastin en Bretagne jusqu'à l'éternité.
Monsieur
Vous êtes sur Atomic Mac et nous sommes toujours en compagnie de Christine, Marie-Lise, Georges, Daniel pour discuter, parler de cette initiative de 2011, du 11 mars 2011, la grande chaîne humaine. On terminait un peu. On parlait tout à l'heure de l'argent. Un peu les questions maintenant, les rapports avec les artistes. Là. On a dit que l'association Boris Vian vous avait donné la parole, etc. Mais on a vu beaucoup d'artistes venir sur la chaîne le 11 mars. On en voyait un petit peu sur toutes les étapes. Ça s'est fait naturellement. C'est vous qui aviez pris contact avec eux ou des gens sont venus comme ça?
On est rentré en contact systématiquement avec des gens qu'on connaissait. C'est vraiment de bouche à oreille que chacun a essayé de faire venir des gens qu'il connaissait. Et on a eu des gens très, très chouettes, des gens très professionnels, bon, d'autres qui étaient plus amateurs. Mais c'était très important sur les lieux de rendez-vous, sur les parkings, puisque bon, on n'a pas parlé, mais la chaîne était divisée en tronçons. Chaque tronçon avait une organisation bien spécifique, avec des parkings bien repérés, avec une organisation très, très bien organisée. Et sur chaque parking, il y avait, peut-être pas sur chaque parking, mais on a essayé qu'il y en ait le plus possible, il y avait des musiciens, des clowns, des petits spectacles.
D'accord. Christine ?
Oui, et là aussi, probablement, il faut dire merci à Jocelyn Péric, qui était l'organisateur ou le coordinateur embauché par le réseau Sortie Nucléaire pour nous renforcer les derniers 3 mois. Et c'est lui qui a pris le contact, ou c'est le réseau qui a pris le contact avec Carpath, avec Léo Pala. Et ça, c'était les groupes qui a fait une version de Boris Vian. Mais on a le premier contact, c'était en principe, et ça, c'était le contact qui était pendant toute la préparation, c'était le Coeri Boris Vian. C'était Nicole Berthold qui était aussi présente le 7 mars à Paris aux conférences de presse nationale. Et là, elle a bien expliqué pourquoi c'est une idée très cohérente avec avec Boris Vian, parce que lui, il a fait 2 chansons contre le nucléaire. Il est un ami de Jacques Prévert. Jacques Prévert et Boris Vian, ils ont des propriétaires, des maisons près de La Hague. Alors, ils ont une lien très proche avec La Hague et avec la déchetterie, en guillemets. Et c'était elle qui... Nicole Berthold, qui a vraiment essayé de nous donner l'espoir que les artistes voilà, qui sont avec nous.
Très bien. Nous voilà le 11 mars maintenant. Hein. Marie-Lise en a un petit peu parlé. L'organisation a beaucoup impressionné parce qu'il y a des cars qui sont venus de toute la France. Vous aviez fait ça en tronçon, etc. Votre tour à vous, comme ça, comment vous vivez ce 11 mars? Parce que finalement, c'est la fin de presque un an de travail. Ce jour-là, vous étiez heureux, triste, des choses n'étaient pas allées. Comment ça s'est passé pour vous ce 11 mars?
Bon, moi, j'étais un peu triste parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde, bien sûr.
60 000 personnes, c'est beaucoup.
Oui, mais dans notre coin, il y avait beaucoup de trous, quoi. Voilà, donc on aurait voulu que la chaîne soit beaucoup plus homogène. Bon, mais à côté de ça, il y avait des endroits très, très, très festifs, comme à Livron. Tu peux en parler, Daniel.
À Livron, c'était oui, très gai. Il y avait un groupe musical, une famille qui jouait de la musique manouche, et ça a été extrêmement bien. À la fin de la chaîne, tout le monde s'est rassemblé autour de ce groupe et ils ont joué, ça a été extra, quoi. Et les gens étaient enthousiastes, là. Hein. Ils sont restés, du coup, assez tard, quoi.
Et vous avez gardé les contacts avec les... Parce qu'il y avait des gens qui venaient d'Angers, un peu toute la France, des contacts se sont organisés ce jour de cette chaîne ou...
Oui et non. Alors, on a gardé les contacts de la région parce que il faut quand même dire, on a compté à peu près 10 000 personnes qui sont venues de toute la France, mais 50 000 personnes de la région. Et ça, c'est super important de se dire, la région a bougé. Et en général, ça, c'est aussi notre espoir ou notre idée. Quand on a chaque année une grande chaîne en France, on peut bouger petit à petit les autres régions aussi. Mais il faut vraiment que la région se lève, parce qu'en général, on dit pour une grande chaîne humaine, il faut 20% des personnes extérieures et à peu près 80% des personnes dans la région. Et nous, on a gardé le maximum des contacts avec les collectifs qui se créaient après la chaîne, et voilà. Et moi, j'ai vécu la chaîne un peu plus difficile comme un des responsables. J'étais avec le coordinateur du réseau sortie nucléaire, la gendarmerie, le STIG, dans le local de Frappna. Alors, c'était un peu une situation assez isolée, mais quand même très sympa. Aussi avec... parce qu'on a essayé de montrer qu'on a tous le même but. Ça veut dire que la chaîne passe en sécurité, sans accident, avec une bonne ambiance. Et c'était le dénominateur minimal qu'on a trouvé avec le service de l'ordre.
D'accord. Et toi, Georges, un petit peu un retour sur ce 11 mars.
Ce que j'ai vécu, moi, j'étais au parking de Valence Nord. Donc, effectivement, il y avait un groupe de 4 ou 5 musiciens spontanés. Et nous sommes partis dans deux directions différentes. Une partie de la chaîne est allée en direction du centre-ville et une autre dans l'autre sens, au nord. Ça a été un peu difficile d'amener les gens parce qu'il y avait une longue ligne droite et effectivement, il fallait marcher pendant un certain temps. Gérer la chaîne de façon à ce qu'elle ne se casse pas. Je pense que cette situation a dû se retrouver dans d'autres maillons, enfin, dans d'autres tronçons. Mais il y a eu une jonction qui s'est faite à l'entrée de Valence avec la chaîne qui était à l'intérieur du centre-ville de Bourg-lès-Valence. Et puis, une certaine joie des participants. Voilà.
Bon, on comprend que vous avez tous été un peu en pression jusqu'au jour fatidique, quoi. Et maintenant, parce que voilà, la chaîne, c'était le 11 mars. Est-ce que votre groupe s'est dissous? Est-ce que vous continuez à fonctionner? Et finalement, vos projets?
On continue, parce que... on a compris, les centrales ne sont pas fermées jusqu'au maintenant. Et on a vu aussi que le gouvernement, jusqu'au maintenant, ils n'ont pas répondu comme... on a espéré, non, c'est pas ça, mais... alors, on va continuer parce qu'il y a assez du travail et la prochaine chaîne ici dans la région, c'est le 23 septembre à Valence, place Chambre de Mars, entre 15h et 17h. Et après, il y a une chaîne avec le collectif que s'est créé après la chaîne humaine ADI. C'est un collectif pour transition énergétique. Et c'est le dimanche, le 25 novembre, à 10, entre 14h et 16h, parce que c'est mois de novembre, ils ont peur avec la nuit. Et après, on a prévu, fin de mois de janvier, on espère c'est samedi le 26 janvier, préparer un concert avec la musique, avec des artistes enchaînés, pour financer un petit peu les prochains projets, les chaînes, et aussi pour annoncer la grande chaîne humaine pour le deuxième anniversaire de Fukushima. C'est en principe le 11 mars, mais comme ça tombe sur un lundi, on va prendre le samedi le 9 mars à Paris.
Ah oui, donc si je comprends bien, là, vous repartez dans la même préparation qu'en 2010, c'est-à-dire vous refaites des chaînes locales dans l'objectif de refaire une grande chaîne nationale.
Oui.
D'accord. Et cette grande chaîne nationale à Paris, alors c'est pas spécialement vous qui allez l'organiser, mais ça va être des comités parisiens, j'imagine.
Alors ça, c'est pas absolument décidé. Nous sommes en discussion avec le réseau sortie nucléaire. Il y a une discussion en route pour voir comment on parce que là il faut vraiment que les collectifs de Paris ou du Nord s'engagent. Et là il y a pour le moment une sondage, une discussion qui est en cours. Mais nous, on essaie, dans la région, de pas laisser tomber la pression. Parce que si on arrête à ce point-là, c'est comme en 81 ou c'est comme après les élections, les gens s'est investi et sont dissus. Il faut continuer. Il faut vraiment que cet esprit que nous voulons changer quelque chose est visible. Parce que Oui, voilà. Ça, cela ne suffit pas en une grande action et après, il n'y a rien. Il y a le grand trou, la grande vide. Ça ne va pas. Hein. Il ne faut pas lâcher le morceau.
Marie-Lise.
Oui, moi, je voulais dire qu'il est important que tous les citoyens qui veulent réagir contre tout ce qui se passe vraiment se donnent la main au sens propre du terme. Et par exemple, dimanche passé, on était avec le collectif contre les gaz de schiste. Eh bien, on doit travailler avec eux parce qu'évidemment, on ne veut pas de nucléaire, on ne veut pas de schiste, non, de gaz de schiste non plus. Donc, il est très, très important que chacun se mobilise ensemble. Ensemble. C'est vraiment le mot d'ordre qui doit maintenant être dans toutes les bouches, puisqu'il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut être regroupé.
Georges, pour conclure.
Oui, je veux rajouter que l'objectif, c'est quand même, compte tenu de l'absence de réaction de l'actuel président de la République, est quand même passé deux jours après la grande chaîne sur le Champ de Mars à Valence et qui n'a pas donné un mot de réaction sur cette chaîne. L'objectif à l'heure actuelle, c'est le grand débat sur l'énergie qui va commencer en septembre.
Voilà. Et pour nous contacter, probablement c'est important. Alors, on a une boîte mail, c'est contact@chainehumaine.fr et on a un site www.chainehumaine.fr et un numéro de téléphone 07 77 20 27 71.
Voilà, et toutes ces informations seront aussi sur le site d'Atomic Mac, donc nos auditeurs pourront les retrouver quand ils le voudront, mais c'est très bien de les avoir redonnés aujourd'hui. Puisque nous sommes dans l'agenda et les dates, Pierrick a de nombreuses initiatives à vous annoncer.
Oui, alors effectivement, cette rentrée chargée, je vais vous présenter tout ce qui va se passer. Ça commence le 8 septembre de 10h à 18h, le forum des associations organisé par la ville de Valence où il y aura plus de 200 exposants, 200 associations présentes, dont Radio Méga, dont SDN2607. Je vous invite à venir nous rencontrer, que ce soit pour voir nos petites frimousses ou signer des adhésions ou essayer de voir quel est l'avis de toutes les associations au niveau local. C'est très intéressant, très enrichissant, des belles rencontres en perspective au Hall Chaban-Delmas, au Parc des Expositions à Valence de 10h à 18h. Le même jour, le 8 septembre de 14h à 23h sur les quais de la Bourne est organisée une journée intitulée « Lumière sur les alternatives » à l'initiative du collectif antinucléaire Sud Grésivaudan qui s'est formé après la chaîne humaine d'ailleurs. Ils organisent des conférences, des ateliers et des concerts. Il y a une association Négawatt qui sera présente pour exposer les différents scénarios. Il y aura une conférence sur la France atomique, des ateliers de séchoirs solaires, de présentation de panneaux solaires, etc. Et un bal folk qui est organisé à 20h le soir avec repas, buvettes, jeux en bois, etc. etc. À l'initiative de la Confédération Paysanne de la Drôme est organisée une fête paysanne le 9 septembre à partir de 10h à Mirabel-et-Blacon sur l'aire de camping de la famille Reynard où vous retrouverez tout un tas d'informations sur les tractions attelées, la valorisation de la laine, les semences paysannes et avec un temps fort à 15h un débat sur la convergence des luttes foncières du Nord et du Sud. Puis, je vous invite avant le 9 septembre à vous inscrire pour visiter la centrale nucléaire de Cruas ou du Tricastin sur le site d'EDF. C'est tout à fait possible, ce sera très enrichissant et très intéressant. Ça aura lieu le 6 et 7 octobre 2012. EDF vous accueille sur les sites de production, une bonne occasion d'en savoir plus sur l'univers de l'énergie et de la production d'électricité. Je n'en doute pas, c'est comme ça qu'ils font la pub de leur journée. Donc bien sûr, si vous voulez aller visiter Cruas, 04 75 49 30 40. Il faut s'inscrire avant. Ensuite, Christine en a parlé, le 23 septembre, il y a à Valence, place du Champ de Mars, de 15h à 17h, une chaîne humaine. On va essayer de faire mieux que l'année dernière où il y avait déjà eu plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes. Il faut bien penser à venir en famille pour passer un moment agréable. Il y a de prévu le 14 septembre, c'est-à-dire le week-end avant, au rond-point du KFC, une journée à l'initiative de Sortir du nucléaire Andromardouche pour dénoncer les gaspillages énergétiques la nuit. Donc plus d'informations dans notre agenda sur notre site. Le 20 septembre, au cinéma Le Navire à Pierrelatte, à 20h, il y a un film qui s'appelle Explosion, en présence de Jocelyn Perret, qui a beaucoup œuvré pour la sortie du nucléaire. Donc je vous invite à vous renseigner, toujours en allant jeter un œil sur notre site. Il y a également de prévu le 13 octobre une grosse manifestation interrégionale à Lyon, à l'initiative du collectif Stop Buget, où il y aura d'ailleurs dès le 11 octobre, depuis le Buget, des départs en marche pour simuler les marches des réfugiés du nucléaire en cas d'accident sur la centrale de Buget, qui est très proche de Lyon. Une arrivée qui est prévue donc le 13 octobre à 14h au quai Auganeur, avec un début de rassemblement, tout un tas de choses, des décontaminations externes, etc., etc. Et puis bien évidemment, vous retrouverez sur le site sdn26-07.org toutes les informations que je vous ai présentées. On aura la chance de se revoir le 1er octobre pour la prochaine émission, et on va terminer en chanson avec le titre des Têtes Raides, Méfie-toi.
Choisissons, choisissons,
vu que c'est nous qui tournons.
Choisissons, choisissons,
vu que c'est nous qui volons.
Choisissons, choisissons,
vu que c'est nous qui atterrissons.
Choisissons, choisissons,
vu que c'est nous qui choisissons.
Choisissons, choisissons,
que le ciel est au plus bas.
Méfie-toi, méfie-toi,
vu que c'est lui qui fait la loi.
Méfie-toi, méfie-toi,
que le loup entre toi et moi.
N'y sois pas, n'y sois pas.
Méfie-toi, méfie-toi,
de ce qu'on raconte là.
Méfie-toi, méfie-toi,
de ce qu'on raconte là.
Méfie-toi, méfie-toi,
du comment, du pourquoi.
Méfie-toi, méfie-toi.